Titan Mag, T comme Titan.
Dan comme Daniel.
Le magazine de Titan.
Et Dan.
Le Titan Mag, avec la complicité de l'ami éclairé.
Dominique.
Avec nous au micro et de l'ami fidèle Laurent à la technique, vous invite à participer à ses rencontres humaines, ses inspirations de l'instant et son désir imminent.
Les passeurs de mots de Majolire de Bourgoin-Jallieu ont eu le plaisir d'accueillir Sylvain Pathieu, auteur de deux romans, Des impatientes et Le bonheur pauvre rengaine. Sylvain Pathieu est maître de conférences en histoire contemporaine. Il est spécialiste d'histoire sociale et vient par ailleurs de publier un livre sur la fermeture de l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois. Son premier roman a pour cadre un lycée de la banlieue parisienne, puis une grande surface de la décoration. Le second, dont la matière lui a été fournie par les archives des Bouches-du-Rhône, raconte le meurtre d'une prostituée à Marseille en 1920. Plongeons-nous dans l'entretien mené par Dominique Molin.
Sylvain Pathieu, bonjour.
Bonjour.
Si vous en êtes d'accord, on va démarrer l'entretien par votre premier roman.
Pas de problème.
Des impatientes. Alors très rapidement, l'histoire, c'est l'histoire de deux camarades qui sont dans un lycée et qui se font renvoyer à la suite d'une bagarre et qui se retrouvent du jour au lendemain dans une grande surface de décoration. Démarrage du livre, vous évoquez la rentrée au lycée le matin et vous dites 29 nationalités qui se côtoient dans l'établissement. Et vous dites, ça m'a un peu surpris, ça promet des débats et des vannes enflammées lors des Coupes du Monde ou de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous pensez que ça ne pose pas davantage de problèmes?
Ça peut poser davantage de problèmes, mais c'est pas tellement parce qu'il y a beaucoup de nationalités rassemblées, mais c'est surtout parce que ce sont des lycées qui sont dans des zones difficiles, donc des lycées où il peut y avoir des problèmes sociaux plus que des problèmes culturels, même s'il peut y avoir aussi des problèmes culturels. Alors cela dit, moi, j'enseigne en Seine-Saint-Denis. J'ai enseigné 2 ans seulement en lycée, mais j'enseigne aussi à l'université à Paris 8, qui est à Saint-Denis, donc où c'est... des étudiants qui viennent aussi de Seine-Saint-Denis. Et honnêtement, moi, en tout cas, mes années de lycée ont été des années où j'ai pris beaucoup de plaisir à enseigner à toute cette population, certes cosmopolite, mais surtout très vive et très, très curieuse. Et du coup, c'est plutôt pour moi des années qui évoquent la nostalgie plutôt que les problèmes. C'est vrai que souvent, dans les médias, on a tendance à parler des lycées de banlieue uniquement au prisme... quand il y a des émeutes ou quand il y a des profs qui se font agresser. Mais la plupart du temps, ça se passe très bien. Il y a une envie d'apprendre qui est aussi forte que dans beaucoup d'autres endroits. Quoi.
Il y a quelque chose qui m'a frappé quand vous évoquez le lycée, le matin, donc de nouveau la ruche. Vous parlez de toute une humanité. Et avant de parler d'élèves, vous signalez la profession des parents. C'est important pour vous?
Ce qui est intéressant dans ce genre d'endroit, c'est qu'on a des élèves qui viennent de milieux populaires. Et alors il n'y a pas, heureusement il y a une certaine mixité sociale, ils ne viennent pas tous de milieux populaires, mais il y a quand même une concentration d'élèves qui viennent de ces milieux populaires. Et du coup je pense que quand on est enseignant, il y a un enjeu encore plus, peut-être que dans des endroits où on a des élèves qui sont dans des familles où les parents ont fait des études et tout ça, c'est qu'il faut, il faut leur faire aimer l'école, il faut leur faire aimer le savoir et puis essayer de leur apprendre tout ce qu'on peut. Et du coup c'est vrai que... pour moi, c'est un public particulièrement intéressant. Et c'est aussi intéressant de savoir que ce sont des élèves qui peut-être ne peuvent pas tellement se faire aider à la maison. Et donc le fait que les parents aussi comptent beaucoup sur les profs, en fait. Il y a quand même pas mal de respect pour les profs parce qu'on est ceux qui permettent à ces élèves d'accéder aux études, d'accéder au savoir, peut-être pour certains d'entre eux d'accéder à l'université ou à différentes écoles. Et du coup, c'est quand même un enjeu, un défi important. Moi, je l'ai ressenti comme ça.
Alors, les deux camarades, c'est Halima et Bintou. Halima, elle a peu d'amis. Elle n'a pas aimé le collège. Elle y a souffert beaucoup parce qu'avec cette tranche d'âge, les forantèmes ne sont pas trop bien vus. Oui, mais en revanche, elle se sent très bien, comme chez elle, au lycée.
Oui, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti personnellement, mais je pense que je ne suis pas le seul. C'est qu'il y a un décalage entre l'école, où c'est encore familial... On connaît tous ses camarades de classe, on connaît bien les institutrices et les instituteurs. Et puis le passage au collège, où c'est un monde beaucoup plus rude, où ça peut être assez mal vu d'être bien vu par le prof, ou d'être vu comme un intello. Et c'est vrai qu'après, quand on arrive au lycée, quand même, il y a un peu plus de maturité. Les profs sont moins vus comme les ennemis ou les adversaires. Et puis, bon, il faut le dire aussi, il y a un certain nombre d'élèves qui se sentent mal au collège, qui ne vont pas au lycée. Et donc, c'est vrai que c'est moins difficile quand même, le lycée que le collège, notamment pour des bons élèves. À l'IMA, c'est un mix, bien sûr, de beaucoup d'élèves que j'ai vu passer. C'est vrai qu'on parle souvent des problèmes quand on parle des lycées de banlieue, mais il y a des élèves qui sont vraiment excellents. Et il y a des élèves qui sont vraiment très impressionnants parce qu'ils sont avides de savoir, parce qu'ils travaillent beaucoup, parce qu'ils sont bons. Et donc pour faire ce personnage d'Alima, j'ai fait un peu un mix de ces élèves-là. Puis je me suis un peu rappelé aussi de ce que j'avais pu vivre moi quand je suis passé de l'école au collège et puis ensuite au lycée.
Alors je vous cite, hein, à propos d'Alima, toujours, « L'école, ça me plaît, tant pis si ça fait bolos. Et à mon avis, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui aiment faire les idiots devant les profs, ils le regretteront plus tard. J'ai envie de faire des études, d'apprendre, de devenir une personne cultivée comme les profs. » Vous pensez qu'il y a beaucoup d'élèves comme ça, comme elle ?
Oh oui, il y en a beaucoup. Moi, j'en ai vu. En tout cas, j'ai vu pas mal de bonne volonté, en fait, hein, moi, chez mes élèves. C'est-à-dire que, bien sûr, quand ils peuvent s'amuser, ils s'amusent. Mais il y a quand même une volonté de savoir, une volonté d'apprendre qui est importante. Après, voilà, il faut être à la hauteur de ce défi. C'est-à-dire qu'un élève qui s'ennuie, c'est un élève qui n'écoute pas. Un élève qui s'ennuie dans certains endroits, il va rêver ou il va dormir. Quand on est enseignant en Seine-Saint-Denis, un élève qui s'ennuie, il va chahuter. Donc il faut bien préparer ses cours, il faut être capable de répondre, de montrer que c'est utile. Il faut être très carré soi-même et il faut ne pas hésiter à être exigeant. Parce que c'est en étant exigeant avec les élèves qu'ils voient aussi le défi qu'il peut y avoir et puis que l'intérêt qu'il peut y avoir à apprendre. Si on leur fait des choses qui sont trop faciles, ça les intéresse pas. En même temps, alors que ce soit Alima ou Bintou, ces deux personnages, il y en a une qui est la bonne élève, Bintou c'est plutôt le cancre, ces deux personnages qui chacune à leur manière veulent participer à la société. Alima c'est en suivant les règles, en étant la bonne élève, celle qui va être bien vue des profs, celle qui va collectionner les bons points. Et du côté de Bintou c'est plutôt la société de consommation, en étant celle qui se fait remarquer au fond de la classe, en faisant du shopping et des choses comme ça. Mais en tout cas toutes les deux sont des élèves, enfin des adolescentes, qui sont complètement intégrées à leur société, qui ont cette volonté en tout cas de participer à cette société, de participer à ce monde dans lequel elles vivent. Ce ne sont pas des marginales en tout cas.
Alima aime beaucoup sa maman, sa petite maman, comme elle dit. Elle est mal à l'aise lorsqu'elle entend Hervé dire de ses parents qu'ils sont nazes. Elle n'aime pas entendre son autre ami répondre à ses parents. C'est quelque chose qui est courant, ça ?
C'est aussi quelque chose, je pense, qui est sans doute plus répandu dans les milieux populaires, cette idée qu'il faut respecter ses parents, qu'il ne faut pas mal leur parler. Il y a des rapports entre parents et élèves qui sont parfois un peu plus traditionnels que dans des milieux un peu plus bourgeois. C'est vrai qu'il y a aussi pas mal de familles qui sont monoparentales. Et donc, dans ces familles monoparentales, le parent qui est là prend une grande importance. En tout cas, c'est comme ça que j'ai voulu construire mon personnage dans le roman, quoi. Ce personnage d'Alima sur laquelle reposent tous les espoirs de sa maman, tous les espoirs scolaires, tous les espoirs de réussite. Hein, sa maman qui dit qu'elle travaille dans des métiers difficiles, elle fait le ménage chez les autres, elle a un salaire qui n'est pas très important, mais au moins sa fille, elle, va réussir à l'école et ça sera en quelque sorte sa revanche. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de familles d'origine populaire qui comptent sur l'école justement pour que ça soit un moyen d'ascension sociale. Et du coup, ça fait peser aussi quand même une certaine pression sur les enfants.
Il y a un personnage de l'histoire qui apparemment passionne Alima, c'est Jeanne d'Arc. Ah. Des fois, je me sens un peu comme Jeanne d'Arc, mon personnage préféré de l'histoire de France. Je la connais bien parce que j'ai fait un exposé dessus en histoire. Je l'ai pas mal travaillé, même que le prof en était impressionné. Un peu comme une phrase que vous opposeriez à ceux qui disent que l'intégration est impossible.
Ben oui, c'est vrai que Jeanne d'Arc, c'est un personnage historique que j'aime bien, même s'il a été récupéré par l'extrême droite. Mais au départ, Jeanne d'Arc, dans la mythologie républicaine, c'est plutôt un personnage de gauche. Parce que Jeanne d'Arc, c'est celle en fait, qui réussit à dépasser toutes les normes sociales de son époque, puisque c'est une femme qui s'habille en homme, qui commande des armées, qui parle avec des aristocrates d'égal à égal. C'est une femme qui vient des milieux populaires, c'est une fermière, enfin, elle vient pas des plus pauvres, mais dans son village, On pense que ses parents étaient quand même des gens qui avaient certains biens, mais c'était quand même des paysans, c'était pas des aristocrates et même pas des bourgeois. Et cette Jeanne d'Arc, eh bien, est-ce qu'elle pensait qu'elle était inspirée par Dieu, sans doute, parce qu'elle entendait ses voix? Elle arrive à tenir tête, notamment à ses juges lors du procès, parce que les juges essayent de la piéger en lui disant « Jeanne d'Arc, est-ce que vous êtes en état de grâce ?» Et elle répond « Bien sûr, si elle répond oui, ça veut dire qu'elle est orgueilleuse, et si elle répond non, ça veut dire qu'elle reconnaît qu'elle est inspirée par le diable. » Et elle répond, cette femme qui n'a pas d'instruction, qui ne sait pas écrire, qui sait à peine cocher, faire une croix pour son nom, elle répond « Si je n'y suis, que Dieu m'y mette, et si j'y suis, que Dieu m'y laisse. » Donc vraiment un sens de la répartie très fort. Et donc là, il y a un peu un clin d'œil de ma part, c'est-à-dire que voilà, cette jeune femme d'origine populaire qui est mise en relation avec ces jeunes filles des banlieues qui sont elles aussi capables d'avoir beaucoup de reparties, qui sont elles aussi capables de ne pas s'en laisser imposer par des plus légitimes ou des plus bourgeois ou des plus aristocrates qu'elles. Et du coup, il y avait une sorte de parallèle, c'est un clin d'œil historique, parce que bien sûr, c'est pas du tout fondé d'un point de vue de l'histoire, mais ça m'intéressait d'imaginer cette jeune fille de banlieue qui adore Jeanne d'Arc, parce que comme elle a envie de s'élever au-dessus de là où elle est, quoi.
Alors les élèves de cette première partie du roman, on a donc Halima qui a envie de poursuivre ses études, on a Bintou qui rêve surtout à ses prochaines sorties, on a Hervé qui est gay, on a Hortense qui est plutôt gothique, et puis on a Mounir qui nourrit ses propos de mots en langue arabe. Qu'est-ce que vous avez voulu nous proposer, un échantillon d'une population élève dans un lycée, ou ces personnages vous sont venus comme ça?
Ben c'est vrai que dans le lycée où j'ai enseigné, il y avait une diversité beaucoup plus grande que ce à quoi je m'attendais. Il n'y avait pas que des jeunes avec des casquettes et en survêt, il y avait vraiment de tous les styles. Alors bon, voilà, bien sûr, c'était plus ou moins accepté, plus ou moins bien, il y avait plus ou moins de mélange. Mais du coup, j'ai voulu essayer de ne pas faire quelque chose qui soit complètement caricatural, et du coup d'avoir des personnages un peu différents. Montrer aussi que quand même, heureusement, il y a de nombreux lycées de France, et même des lycées ZEP, même des lycées du 93, où il reste quand même une certaine diversité, une certaine diversité sociale, diversité culturelle, et où il est possible de s'affirmer de manière différente. Et donc j'ai imaginé cette personnage d'Halima qui est un peu à part, parce que c'est une intello, qui est, enfin, comment on peut les désigner, va devenir amie avec ce personnage qui est gay et cette personnage qui est gothique, donc qui sont quand même un peu des personnages à part dans le monde d'un lycée de banlieue, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de gothiques et puis pas beaucoup d'adolescents qui affichent ouvertement leur homosexualité, parce que c'est quand même pas facile. Voilà, donc là, bien sûr, j'ai pas calqué des élèves sur mes personnages, mais mes personnages s'inspirent de beaucoup d'élèves que j'ai eus dans mes classes ou que j'ai vus dans mon lycée.
Thank you.
Couleur FM 97.1 avec notre invité Sylvain Patieux. Nous venons d'entendre Bud Powell dans I Want to Be Happy, d'un album contenant des morceaux enregistrés entre 1947 et 1953. Continuons la conversation avec Dominique Molin et Sylvain Patieux.
Alors cette Bintou, si on était au cinéma, on dirait qu'elle crève l'écran, mais bon, c'est un tournage très fort.
Hein. Ouais.
Elle n'aime pas l'école. Madame Charlier, elle voulait que je sorte mes cahiers, mais j'en ai pas. Qu'est-ce qu'il croit, moi ? J'ai pas un cartable, j'ai un sac à main. Je suis pas une clocharde. Je pouvais pas y mettre un cahier ou un livre dedans, ça déforme. J'ai pas choisi d'y aller dans cette classe pourrie, dans ce lycée pourri. Les profs-là, ils m'aimaient pas, c'est sûr. Ils pouvaient parler, je m'en battais les couilles.
Ben oui, c'est vrai que moi, en tant que prof, j'ai un petit faible, une petite sympathie pour les cancres, en fait. Un bon élève, finalement, c'est facile. On n'est même pas sûr de ce qu'on lui apporte, parce que un bon élève, bah, il suit sa route, il pourrait presque se débrouiller sans nous. Alors qu'un cancre, bah, il y a un défi quand même. Il y a le défi d'arriver à l'intéresser à notre matière. Bon, moi, j'étais prof d'histoire géo, donc c'est bien que j'aimais ça, l'histoire géo. Et donc, arriver à faire dépasser à un élève la posture justement de « je m'en bats les couilles », arriver à lui faire dépasser la posture de « ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi », c'est vraiment quelque chose qui m'a passionné, qui me passionne encore dans ce métier, parce que même à la fac, on a des fois des étudiants qui savent pas trop pourquoi ils sont là. Et donc, arriver à créer justement chez ces élèves-là ou chez ces adolescents-là une passion, bah, ça m'a intéressé. Et puis, bon, tout le monde n'est pas bon à l'école, hein, et pourtant, il y a de tout pour faire une société. J'ai jamais compris, en tant qu'enseignant, qu'on puisse mal considérer ou humilier un élève parce qu'il est mauvais ou parce qu'il n'est pas intéressé par l'école. Alors, il faut lui dire ce qu'on a à lui dire, c'est-à-dire que s'il n'est pas bon en classe ou s'il ne travaille pas, ben, il faut lui dire. Mais après, ce n'est pas une raison pour juger la personne qui est derrière. Et donc, voilà, moi, j'ai toujours essayé de prendre un peu de distance et de relativiser un peu ça. Et voilà, s'il y avait des élèves qui n'aimaient pas l'histoire, ben, j'essayais de leur faire aimer. Et si j'y arrivais pas, bah, tant pis pour eux, tant pis pour moi, mais j'allais pas leur en vouloir pour ça, j'allais pas prendre ma revanche sur eux parce qu'ils aimaient pas l'histoire. Et puis alors, peut-être que ça étonne un peu les auditeurs, le langage qui est utilisé là dans la phrase que vous avez lue. C'est vrai que volontairement, en fait, moi je fonctionne avec des personnages qui ont chacun leur manière de parler, leur manière de penser, et donc j'écris à chaque fois différemment. Je suis pas les Jeanne d'Arc, mais j'entends des voix, en fait. J'écris des voix, en fait, des voix fictionnelles, bien sûr, qui sont celles de mes personnages, qui se succèdent, qui s'enchaînent. Et chacune de ces voix, elle doit être reconnaissable, et elle doit vraiment correspondre à un personnage particulier. C'est-à-dire que quand on lit des livres où il y a plusieurs voix, où il y a plusieurs personnages, et où c'est tout le temps écrit pareil, je trouve ça toujours un peu artificiel. Et du coup, moi, j'ai voulu vraiment personnaliser ces voix, et faire en sorte que chaque voix soit particulière. Et donc la voix de Bintou, eh bien, c'est la voix d'une élève qui n'hésite pas à parler en argot, qui n'hésite pas à dire des gros mots, qui est parfois vulgaire. Et donc c'est vraiment un travail sur le langage, un travail sur la langue, mais c'est aussi ça qui fait le plaisir d'écrire. Et puis c'est l'idée que tous les langages ont droit de citer dans les romans, qu'on peut faire de la littérature, à mon avis, avec tous les registres de langue. La langue la plus légitime, mais aussi avec le langage populaire. Moi, ça m'intéresse, cette langue populaire, ça m'intéresse de travailler là-dessus, ça m'intéresse de la faire advenir dans mes romans, de la faire partager par les lecteurs, et puis du coup, c'est vrai que c'était particulièrement jouissif d'écrire ce personnage de Bintou. Il y a beaucoup de lecteurs pour qui c'est le personnage préféré, en fait, finalement. Alors que c'était pas gagné d'avance. Et des gens qui sont très éloignés de ce que peut être ou ce que peut représenter ce personnage. Donc ça, c'est quelque chose dont j'étais plutôt content, qui est plutôt bien. Puis c'est un personnage qui a une gouaille terrible aussi, parce que ouais, quand on enseigne dans ces quartiers populaires, il y a vraiment une gouaille. Des fois même, c'est dur de ne pas se retenir, de rigoler, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment drôles dans le langage et dans le vocabulaire utilisé.
Cette Bintou, elle a une grande sœur qu'elle adore,
oui.
Qui est malade, qui va mourir. Et quand elle meurt, Bintou pousse une espèce de cri. Ce que ma sœur, elle a eu de bien dans sa vie, c'est pas grâce à l'école, c'est grâce aux copines, grâce à son taf, grâce à ses sorties, et aussi un peu, j'espère, grâce à moi.
Alors ce personnage de Bintou, c'est un personnage qui est beaucoup dans la violence et dans l'agressivité. parce qu'elle a l'impression d'être agressée un peu par tout le monde, et du coup, en retour, elle aussi est assez agressive. Donc j'ai voulu tempérer dans mon personnage ce trait de caractère en essayant de lui mettre un peu de tendresse, de lui insuffler cette tendresse avec ce personnage de sa sœur, de sa grande sœur, qui est quelqu'un qu'elle admire, quelqu'un à laquelle elle se réfère, qui est plus proche de sa propre vie que sa mère, parce qu'il y a une forte génération d'écart entre sa mère et elle. Et donc du coup, ce personnage de la sœur, il m'a servi à humaniser de cette manière-là Bintou, à lui insuffler cette tendresse, à montrer aussi pourquoi c'était une personnage qui était écorchée vive, pourquoi elle était à ce point en révolte. Et du coup, c'est aussi en fait le constat que y a dans certains milieux où on côtoie la mort plutôt que dans d'autres. Alors bien sûr, quel que soit le milieu auquel on appartient, on peut subir le deuil à n'importe quel âge, mais voilà, il y a quand même des statistiques, et statistiquement, quand on vient d'un milieu populaire, eh bien, on a plus de chances de voir mourir quelqu'un de sa famille, ou ses parents, ou son frère, ou sa sœur, ou même des copains ou des copines. C'est vrai qu'il y a vraiment cette idée-là que je voulais mettre aussi dans le roman, que dans certains milieux sociaux, on est obligé de se confronter à la mort et aux grandes questions, peut-être plutôt que d'autres. Alors, il ne faut pas généraliser, mais en tout cas, dans mon roman, c'est le cas.
Alors, Bintou, Kevin, on va revenir sur Kevin, et Halima, dans leur roman, cette première partie, donc ils font un rêve, et que vous racontez, chacun de ces trois rêves se réveille par « je me réveille en sueur ». Ils sont importants pour vous, ces rêves ?
Alors, c'est vrai que j'aime bien mettre différents registres d'écriture. Il y a ces voix dont je vous ai parlé, ces voix fictionnelles. Il y a des passages qui sont plus des passages d'ambiance, où en fait c'est des souvenirs qui reviennent, des souvenirs d'ambiance, des souvenirs de lieux, de paysages, de sons également. Et donc ça, c'est des passages qui sont un peu comme des chœurs, on pourrait dire. Il y a les voix, comme dans la tragédie antique, comme au théâtre, il y a les voix, il y a les chœurs. Et puis, il y a ces passages oniriques qui sont pas nombreux dans le livre, mais qui était aussi une manière de se confronter encore à une autre manière d'écrire et d'essayer de révéler des choses sur les personnages qui sont plus au niveau de leur subconscient ou de leur inconscient. Donc il y avait à la fois d'un point de vue narratif cette idée-là de rajouter quelque chose sur les personnages et du point de vue de l'écrivain de me confronter à une manière d'écrire encore différente. Et c'est vrai que moi je suis un écrivain débutant, donc j'expérimente aussi dans mes livres différentes manières d'écrire. Et j'aime bien les mêler, j'aime bien l'idée que ce soit un livre un peu hybride. Alors, il est un peu moins hybride peut-être que l'autre dont on va parler, que Le Bonheur Pauvre Rengaine, mais déjà dans Des Impatientes, il y a un peu ce côté hybride, avec également des morceaux de réel qui sont là dans le livre. Je reproduis des fiches de signalement d'incident sur les élèves. Donc, bon, là, j'ai repris pratiquement tel quel des fiches que j'avais de mon lycée. Hein. Et puis dans la partie sur le grand magasin, également des consignes marketing, des consignes données aux employés. Là aussi, c'est pratiquement repris tel quel. Parce que des fois, le réel paraît plus fou que la fiction. Donc, dans ces cas-là, je pense que ça vaut le coup de l'intégrer à la fiction.
Donc c'est un lycée, et il y a des profs. Oui. J'aime bien cette évocation que vous faites de la sonnerie de la fin de la récréation.
Ah oui.
quand la sonnerie retentit, repartir, se remettre dans la peau, avec plaisir, avec lassitude, avec crainte, avec enthousiasme, certains boules au ventre, d'autres sourire au cœur.
Oui, la salle des profs, c'est un monde à part, puisque c'est le seul endroit dans le lycée où on est à l'abri du regard des élèves. Et c'est vrai que quand on est devant les élèves, alors on peut avoir, pour certains, une carapace, pour d'autres, jouer un rôle. En tout cas, dans tous les cas, on est obligé de rentrer dans un peu autre chose que soi. On reste soi, mais en même temps, voilà, quand on est tout seul face à 30 jeunes, eh bien, il faut donner de soi. Et donc, on est obligé pour donner de soi, on est obligé de passer un peu au-delà de sa propre personnalité. Et c'est vrai qu'il y en a qui vivent ça bien, il y en a qui vivent ça plus mal. Et pour certains, c'est presque une souffrance d'enseigner, quoi. Donc, du coup, pour d'autres, c'est un plaisir. Bon, moi, je sais que je suis un peu cabotin, donc j'aimais bien ça, quoi. J'aime ça. C'est pas quelque chose, j'ai pas tellement le trac, c'est plutôt vraiment quelque chose qui me motive. Mais il y en a d'autres qui sont moins à l'aise, donc c'est parfois plus difficile. Et bon, On peut avoir un bon ou un mauvais prof qui soit cabotin ou coincé. Hein, ça ne préjuge pas des résultats, le caractère qu'on peut avoir. Mais du coup, voilà, j'ai essayé de mettre ça aussi en scène, ce passage de la salle des profs où on discute entre nous, on raconte notre vie en dehors, on parle de nos enfants, nos copains, nos copines, les films qu'on est allé voir ou pour certains, les cuites qui se sont prises. Et puis après, on arrive devant les élèves et là, il faut être sérieux. Ou même si on n'est pas sérieux, en tout cas, on endosse le costume du prof. Donc, on change même parfois physiquement, on se redresse, on n'a pas la même voix que quand on parle avec nos collègues dans la salle des profs. Donc ça, c'est intéressant pour un romancier, ces phénomènes qui sont des phénomènes assez subtils, mais assez rapides, où un personnage... on devient soi-même un personnage, en fait.
Alors Kevin, le prof amoureux, il vient de se faire plaquer. Apparemment, il a repéré Alima. Vous ne lui faites pas de cadeau. On pourrait même dire que la jambe masculine, vue à travers Kevin...
Oui, alors il le repère à Lima parce que c'est une bonne élève, hein, pas tout bien, tout honneur.
Oui,
mais c'est vrai que ce personnage de Kevin, c'est un personnage qui a un reflet de collègues que j'avais pu voir en salle des profs, mais aussi d'amis qui sont même pas du tout dans l'enseignement. Hein. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai voulu faire ce personnage d'un prof un peu immature, un peu perdu, alors qu'il n'est pas forcément un mauvais prof, mais qui fait quand même des erreurs. Et quand on est prof, le problème c'est que quand on fait des erreurs, ça se paye cash parce qu'on travaille sur de l'humain, donc et on travaille sur des adolescents qui sont dans une période de leur vie où ils sont particulièrement fragiles, donc ça peut amener à des catastrophes quand on fait des erreurs, et pourtant on est des êtres humains, donc on en fait tous. Du coup, j'ai voulu créer ce personnage qui est finalement peut-être plus proche de ses élèves que de certains de ses collègues en termes de comportement, mais en même temps qui est quand même là, qui a quand même passé un concours, qui a quand même toutes les aptitudes pour enseigner. Et c'est vrai que ça reflète un peu aussi des évolutions de la société, parce qu'aujourd'hui, on est jeune de plus en plus tard. Il y en a certains, parfois, à 30 ans, qui habitent encore chez leurs parents. Alors, c'est pas Tanguy, mais presque. Et c'est pas... Dans Tanguy, c'est traité de manière rigolote, mais dans la vraie vie, c'est souvent parce qu'on n'a pas de travail ou parce que les loyers sont chers. Et donc, bien sûr, quelqu'un qui est prof, il a normalement les moyens de se payer son loyer, mais voilà, on a une adolescence prolongée, on a une jeunesse prolongée. Et on prend peut-être des responsabilités familiales moins tôt. Y a toute une série de facteurs qui concourent à ce phénomène. Et voilà, mon personnage de Kevin, c'était un peu ça. Mais c'est vrai que les personnages masculins ne sont pas forcément les mieux lotis dans le roman. Donc c'est sans doute mon vieux fond féministe qui ressort là-dedans. Mais c'est vrai que c'est des personnages, les deux personnages masculins sont des personnages finalement qui sont un peu lâches. Et qui sont moins courageux que les jeunes filles que je mets en scène dans le roman.
La deuxième partie de ce livre, Alima et Bintou, se retrouve donc dans une grande surface. Et vous évoquez, pour démarrer cette partie longuement, le film de Claude Chabrol, Les Bonnes Femmes, qui date de 1960, donc pas mal d'années. Pourquoi ?
D'abord, c'est un film qui m'a beaucoup plu. Et puis c'est un film qui part de pas grand-chose, en fait, qui part de plein de petits riens, de petites histoires, de petites vies simples, et qui arrive à en faire quelque chose, je trouve, de très beau, de très intéressant. Bon, c'est dans un peu dans la mouvance de la nouvelle vague. Enfin, je pense que c'est aussi un des premiers films qui met en scène ces couches sociales, ces couches salariées que sont les employés de magasins. Alors là, c'est une petite boutique dans laquelle elle travaille, mais voilà, le personnage qui est joué par exemple par, je crois que c'est Bernadette Lafont, je trouve que c'est une Bintou de son époque, en fait. Parce qu'elle mâche du chewing-gum, elle se fait draguer par des hommes, elle a de la répartie, et puis finalement elle est plus fragile que ce qu'elle en a l'air, donc c'est un peu une Bintou, ça correspond à une Bintou d'aujourd'hui, sauf qu'elle n'est pas d'origine immigrée, et elle ne vit pas forcément en banlieue parisienne. Mais voilà, donc je voulais faire cette correspondance entre les époques, et en même temps... c'est un peu ces années 50-60, c'est un peu là aussi qu'il y a toutes les origines de ces emplois du tertiaire, ce développement des emplois du tertiaire qui sont des emplois assez peu valorisés et dans lesquels les salaires sont faibles. Et donc je voulais faire le lien, un peu comme avec Jeanne d'Arc finalement, essayer de tisser quand même des passerelles entre les époques. et montrer que c'est pas parce que je parle de deux jeunes filles noires de banlieue parisienne, enfin ce qui est dit dans le roman ne peut pas être avoir une dimension d'universalité et renvoyer à d'autres personnes, à d'autres époques.
Alors le deuxième personnage masculin de votre livre, Aziz, agent de sécurité qui a perdu ses papiers, son permis de séjour étudiant, et qui pourtant dit « Moi j'aime la France pour son histoire, pour sa culture, pour ses intellectuels, mais on a estimé que mon utilité c'était montrer mes muscles, pas mon cerveau. »
Là aussi, c'est, j'ai des amis qui ont été sans papier, notamment un ami turc qui était sans papier, qui était considéré quand il était en Turquie comme un turc blanc. Ce qu'on appelle les turcs blancs, c'est les turcs des villes, c'est les élites en fait, parce qu'il avait fait ses études au lycée français, donc il était quand même... était quand même d'un niveau social assez élevé. Et puis, ensuite, à toute une série de circonstances, il arrivait en France comme étudiant et il a arrêté de faire ses études et il s'est retrouvé pendant plusieurs années sans papier. Et donc là, il a ressenti ce que c'était l'humiliation d'être... Là, il n'était plus un Turc blanc, mais il devenait un immigré turc en France. Et il n'était plus dans les élites, il était ramené dans les catégories les plus fragiles de la société. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est très cultivé, qui est très intelligent, qui a fait des études et qui pourtant s'est retrouvé à travailler comme barman. Et donc j'ai un peu pensé à lui quand j'écris ce personnage d'Aziz, mais je crois que c'est malheureusement une situation qui est pas si exceptionnelle que ça, où des personnes, parce qu'elles sont d'origine étrangère, se retrouvent dans des emplois sous-qualifiés. Et donc je voulais avoir ce personnage de vigile un peu intellectuel, parce que c'est aussi un personnage qui est capable de prendre de la distance, d'essayer d'analyser ce qu'il voit, et d'essayer d'analyser notamment Halima et Bintou. Puisque si dans la première partie on est dans la tête d'Halima et Bintou, on est dans les flux de pensée de ces deux personnages, dans la deuxième partie on s'en éloigne, il y a une rupture. Tout comme Halima et Bintou sortent du confort du lycée, parce que finalement le lycée c'est assez confortable, qu'on soit cancre ou qu'on soit bon élève, on est dans son rôle dont on n'a pas besoin de sortir, c'est assez tranquille et assez confortable. Mais quand elles passent dans le monde du travail, là c'est tout à fait différent, elles ne sont plus protégées comme elles étaient dans ce cocon scolaire, et je voulais placer le lecteur aussi dans cette sorte d'inconfort, qu'il perde ses repères lui aussi, et que ce ne soit plus la voix de Halima, Bintou et Kevin qui le guide, mais la voix d'Aziz, donc la voix de quelqu'un qui aime la France, mais qui est déçu, qui est un peu désabusé, et qui est dans un emploi qui lui laisse du temps pour réfléchir, parce que c'est quelqu'un qui est plutôt né pour réfléchir, et qui se retrouve dans un emploi où ce qu'on lui demande, c'est de montrer ses muscles, et du coup, il a la distance nécessaire pour réfléchir sur la situation, et pour s'intéresser à ces deux jeunes filles qui arrivent dans ce grand magasin, et qui lui paraissent peut-être un peu étranges, et en tout cas, il s'intéresse à elles.
Couleur FM 97.1, avec notre invité Sylvain Pathieu et Dominique Molin, nous venons d'entendre Est, soit, ai-je Jorn Svensson, trio dans Serenity de l'album Good Morning Susie Sow.
C'est quand même un drôle de personnage. Dès qu'il a un problème, il va nager. Il a été amoureux avant le livre, apparemment, il ne s'est pas déclaré. Il est amoureux pendant le livre, il ne se déclare pas. Oui, c'est pas lichon comme personnalité.
C'est un amoureux transi et qui n'arrive pas à en sortir. C'est vrai que c'est un personnage qui a quand même un problème avec les femmes, qui n'arrive pas à leur parler, qui n'arrive pas à les aborder. Et puis, qui a un côté un peu particulier, un peu très solitaire, puisqu'il va nager quand il a des problèmes pour se changer les idées et pour se vider la tête, en fait. Parce que quand on nage, on est ensuite dans un état un peu second. Et c'est aussi le fait d'être étranger sans papier qui isole, en fait, je pense. Quand on se retrouve dans cette situation-là, si on n'est pas très fort psychologiquement, si on n'a pas beaucoup d'amis, eh bien, on peut se retrouver d'un coup très isolé. Et puis surtout, se retrouver avec une très faible estime de soi. Et c'est peut-être ça aussi qui explique qu'il ne se sent pas capable d'aller parler à ses femmes, parce qu'il s'imagine qu'elles ne vont le voir que comme l'immigré sans papier, et pas comme Aziz, qui est sa sensibilité et son intellect.
Il y a un personnage que vous aimez beaucoup, en tout cas l'impression qu'on a en vous lisant, c'est Josie. Josie la caissière, mais qui est un peu la chef caissière. Hein. Et vous dites, elle est déléguée du personnel pour la CGT, mais elle régit le petit monde des caisses comme une patronne bourrue et bienveillante. Elle s'occupe des plannings, des absences, des remplacements, des vacances. Elle passe les consignes diverses. Les caissières de Josie, ce sont ses filles. Elle est dure avec elles. Elle ne leur parle pas toujours très bien, mais il ne faut pas toucher un seul de leurs cheveux.
Ma compagne, en fait, a travaillé pendant presque 10 ans comme caissière dans un grand magasin. Donc dans cette deuxième partie, autant dans la première je me suis inspiré de ma propre expérience professionnelle, dans cette deuxième partie c'est la sienne qui m'a inspiré. Et il y avait dans son grand magasin, j'étais étonné parce que la responsable de la CGT était la chef caissière. Donc je me suis un peu inspiré d'elle pour créer ce personnage. Et c'est vrai que c'est un personnage ambigu parce qu'elle est à la fois syndicaliste, à la fois dévouée pour ses filles, enfin celle qu'elle appelle ses filles, puisque elle-même est célibataire et sans enfant. Et donc... elle les considère vraiment comme ses filles. Et en même temps, elles sont quand même sous ses ordres, puisque c'est elle la chef caissière. Et donc elle n'hésite pas, quand il le faut, à les rudoyer ou à leur donner des ordres. Et il y a une sorte, avec ce personnage, de paternalisme syndical. C'est-à-dire que, normalement, le syndicalisme, c'est de pouvoir syndiquer ceux qui tous les salariés. Mais en fait, dans des boîtes comme ça, les seuls qui peuvent se syndiquer, c'est ceux qui sont les plus stables. Une caissière, en général, n'a pas un emploi stable parce que c'est souvent des caissières qui sont à temps partiel, c'est parfois des étudiantes qui font ça pour un temps, ou alors il y avait pas mal de jeunes mères de famille, donc il y a parfois du mal à joindre les deux bouts. Donc c'est difficile pour ces caissières-là de se syndiquer. Et donc celles qui se syndiquent, finalement, c'est plutôt les chefs caissières. Et c'est difficile de faire du syndicalisme dans le commerce, parce que c'est pas un monde qui est habitué au syndicalisme, c'est pas l'usine, c'est aussi un monde qui est très touché par la précarité. Et donc j'avais envie d'avoir ce personnage de Josie, qui est aussi un peu en décalage, puisqu'elle est quand même en décalage par rapport à ces jeunes filles qui arrivent dans le grand magasin, et auxquelles elle ne sait pas vraiment parler, elle est un peu désemparée comme Kevin pouvait l'être dans la première partie, pour savoir comment s'adresser à elle. Et elle est même à certains moments un peu dépassée par ces jeunes filles, par leur fougue.
Vous avez un chapitre sur les clients de cette grande surface, et ce chapitre se termine par une liste de verbes qui décrivent la façon de travailler tous les jours d'une caissière notamment. On se rend compte que ce travail nécessite une grande abnégation. Être accueillante, sourire, rendre service, aider, encaisser, rendre la monnaie, empaqueter, ensacher, dire bonjour, être poli, dire merci, répondre au téléphone, renseigner, indiquer l'interlocuteur approprié, surtout dire au revoir, bonne journée, appeler un taxi, demander une adresse, un code postal. C'est impressionnant.
Voilà, ouais. Et ça, j'avais demandé à ma compagne, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais quand tu encaisses? Décris-moi concrètement ce que tu fais. Et elle m'avait raconté, c'est vrai qu'il y avait des soirs où elle rentrait, elle était complètement... stressée ou complètement affligée, parce qu'il y a aussi des clients qui sont pas toujours très sympathiques. Et puis quand on est énervé dans un magasin, la personne sur qui c'est le plus facile de s'en prendre, c'est la caissière. Ah, mais vos étiquettes sont mal faites. Ah, mais là il devait y avoir une promo, c'est mal indiqué. Ah, mais là ça fait une heure que j'attends pour acheter 3 ampoules. Bon, voilà, c'est pas... des fois c'est des récriminations qui peuvent être justifiées, mais qui tombent sur les mauvaises personnes. Et donc c'est assez fatigant. Ou alors vous pouvez bien faire un paquet cadeau. Ben non, on n'a pas le droit, la direction du magasin refuse qu'on fasse des paquets cadeaux. Ah bon, mais quand même, vous pourriez me faire un paquet cadeau. Bon, voilà, c'est des échanges comme ça qui sont usants à force.
J'ai quand même envie de revenir, avant de passer à votre deuxième roman, sur votre titre, des impatientes. Alors, quand on voit cette incipit, on se dit, mais on est tombé sur un traité de botanique. Hein, donc, des impatientes, impatience, plantes herbacées de la famille des balsaminacées, vivant dans des endroits peu exposés au soleil, dont les fruits explosent facilement au toucher et disséminent ainsi facilement leurs graines.
Ce qui me plaisait dans ce titre, c'est la polysémie, donc. Impatiente, c'est à la fois un trait de caractère, et puis c'est ces fleurs, donc ces fleurs qui sont explosives. C'est l'idée que je voulais mettre, c'était l'idée de cette jeunesse, en fait, ces deux jeunes filles qui n'attendent qu'une chose, c'est d'exploser. Mais d'exploser dans un sens positif, de faire leur preuve dans la société, de participer à cette société, de faire société. L'impatience, c'est aussi un trait de caractère, hein, c'est un trait de caractère qui est à la fois une qualité et un défaut, qui est sans doute en partie propre à la jeunesse, et qui pour moi s'oppose à la résignation. Le contraire de l'impatience, c'est la résignation. Donc, j'avais pas envie d'écrire des résignés, j'avais plutôt envie d'écrire des impatientes. C'est-à-dire que j'avais pas envie d'écrire quelque chose qu'on entend aussi souvent sur ces jeunes qui ont plus de valeur, qui sont résignés, qui sont aigris, désabusés avant l'âge, qui ne font plus rien. Bon. Non, moi, j'avais envie de montrer à quel point cette jeunesse peut aussi être formidable, quoi. Les réserves d'énergie qu'il y a, qui sont en partie gâchées, hein, d'ailleurs, pas de la faute forcément de ces jeunes, mais aussi de la manière dont fonctionne notre société actuelle. Et du coup, j'avais envie de ce titre qui soit polysémique. Et puis des impatientes, c'est des fleurs aussi, donc des fleurs qui poussent dans des endroits difficiles. Donc voilà, toutes ces idées-là se mêlent dans ce titre, et c'est ça qui me plaisait.
Elles ont poussé entre les murs, n'importe comment, herbe folle, sans tuteur, et elles se sont frayées un passage, le corps dans l'ombre, la tête tournée vers le soleil. Voilà, si vous êtes d'accord, on va peut-être évoquer votre deuxième roman, d'accord, Le bonheur comme Rengaine, qui raconte le meurtre d'une prostituée, et l'enquête qui va suivre. Mais avant de parler plus précisément du livre, j'aimerais bien que vous essayiez de nous préciser quelle est votre conception du romanesque, parce que vous l'avez dit, hein, des impatientes, il y a les fiches d'incidents, le bonheur comme pauvre en rengaine, il va y avoir les rapports de police, donc vous vous appuyez très fort, on a l'impression que vous voulez nous le rappeler à chaque instant sur une réalité que vous avez étudiée parallèlement. Donc le romanesque, c'est quoi par rapport à ça?
En fait, moi, je suis historien à l'origine, donc et j'ai eu toute une période où je lisais plus de romans, en fait. Pendant de nombreuses années, notamment pendant que je faisais ma thèse, je lisais plus de romans. Et du coup, j'avais l'impression que j'étais pas légitime pour faire peut-être de la littérature ou pour en lire. Puis je me suis remis à lire des romans, et de me remettre à en lire, ça m'a donné envie d'en écrire. Mais j'avais ce soupçon en illégitimité, je me disais, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux écrire des romans, est-ce que j'en suis capable? Et donc c'est vrai que ces deux premiers romans sont des romans un peu hybrides, dans lesquels on sent quand même, je pense, la patte de l'historien, enfin en tout cas de quelqu'un qui fait des sciences sociales, et dans lesquels j'ai voulu mêler aussi plusieurs registres. J'ai voulu mêler la réalité et puis la fiction. Alors la réalité dans Des impatientes, c'est bien sûr la réalité sociale, et puis les rapports d'incidents, les extraits de documents distribués aux caissières que je place dans le livre. Dans Le bonheur par Rengaine, c'est un ouvrage dans lequel je suis parti d'un fait divers qui a réellement existé, qui s'est réellement passé, que j'ai trouvé dans un carton d'archives. Et du coup, j'ai mis dans le roman une partie de ces archives, la reproduction de certains procès-verbaux, de certains interrogatoires, des lettres d'amour, des photos, des pièces à conviction du dossier d'enquête par rapport au meurtre. Et parce que voilà, c'est une sorte de transition pour moi aussi. C'est des romans hybrides parce que je passe d'une écriture universitaire à une écriture romanesque, même si c'est des romans, hein, pour moi c'est résolument du côté du roman. Mais en même temps, c'est aussi une volonté d'essayer de mettre dans le roman des choses qui n'y sont pas d'habitude. Donc j'ai parlé tout à l'heure du langage populaire, mettre aussi des documents, mettre aussi des choses un peu brutes que le lecteur doit s'approprier, voilà, face auxquelles le lecteur peut être surpris. Et rappeler au lecteur que ceci est un roman, ceci n'est pas une pipe, quoi. Essayer de faire en sorte que mes romans puissent aussi poser des questions, en fait, au lecteur. je suis pas là en train d'asséner des vérités ou d'asséner des évidences, mais essayer plutôt de provoquer des questionnements chez le lecteur.
Alors ce titre, Le bonheur pauvre rengaine, si j'ai bien compris, vous avez pensé à une chanson de Mistinguette
Alors non, ça sonne comme une chanson de Mistinguette.
Ça sonne comme une chanson de Mistinguette.
Une, justement. C'est un ami à moi qui s'appelle, de son nom de scène, Orsu Jezenska, qui est prof de philo à Marseille, il habite à Marseille, qui en fait est aussi musicien et compositeur. Et c'est un ami très proche qui relit tout ce que j'écris, qui relit mes manuscrits, qui met d'une aide précieuse. Et en fait, je ne trouvais pas de titre. On a discuté avec l'éditrice, on n'arrivait pas à trouver de titre pour ce livre. Et il m'a suggéré, parce qu'il connaissait bien mon manuscrit, il m'a suggéré ces paroles d'une de ses chansons. « Le bonheur, pauvre rengaine ». Et ça m'a bien plu, parce que justement, ça sonne Mistinguette, ça sonne Fréhel, ça sonne chanson réaliste des années 20. Ça correspond bien à l'ambiance qu'il y a dans le roman. Et puis en même temps, ce que dit aussi ce titre, c'est aussi quelque chose qui me plaisait bien. C'est... dans ce roman, on a des personnages qui sont en quête de bonheur, qui sont en quête de réussite sociale. Enfin, en tout cas, pour eux, le bonheur, c'est la réussite sociale. Donc ça revient comme une rengaine, mais c'est une pauvre rengaine parce que ça les conduit vers l'échec, en fait. Cette quête les conduit vers l'échec. Comme dans les chansons réalistes qui finissent mal, ils sont eux-mêmes, comme le mythe d'Icare, ils volent vers le soleil et puis leurs ailes fondent et ils se retrouvent à tomber. Donc ce titre... Voilà, pour toutes ces raisons, j'aimais bien ce titre que je trouvais aussi assez poétique et un peu mystérieux quand même.
Alors nous sommes pendant la Première Guerre mondiale.
Juste après, oui.
Juste après, les femmes ont pendant un temps remplacé les hommes dans les usines de munitions notamment, ce qui ne plaît pas forcément aux responsables de la CGT par exemple, qui pensent que ce n'est pas la place des femmes, elles font baisser les salaires et puis elles entraînent des histoires.
Oui, alors c'est... Toute la CGT ne pensait pas comme ça, mais il y a eu des débats quand même très forts autour de ces questions-là dans la CGT. Il y a même eu un syndicaliste qui a été exclu de la CGT parce qu'il avait laissé sa femme se syndiquer. Et c'était des imprimeurs tous les deux. Et c'est vrai que le roman commence en effet avant la guerre, il y a une partie pendant la guerre, et puis le gros du déroulement c'est après la guerre. Et je me suis penché sur les protagonistes de ce fait divers, et je leur ai imaginé des vies avant le crime. Donc des vies dans lesquelles chacun a sa propre voix. Donc là, on retrouve ce système des voix fictionnelles qu'il peut y avoir dans Des Impatientes. Donc il y a Yvonne Schmidt, qui est une jeune ouvrière qui finalement se retrouve prostituée. Et Yves Couliou, qui lui est aussi ouvrier au départ, et même syndicaliste, anarchiste, révolutionnaire dans la CGT de l'époque. Et lui se retrouve proxénète. Et donc j'ai voulu imaginer, en fait, de manière plausible, hein, même si c'est mon imagination qui a travaillé, imaginer le destin de ces personnages et comment ils avaient pu arriver à se retrouver tous les deux, la victime et l'assassin d'un fait divers sordide au 19 rue de la République à Marseille, dans la nuit du 24 au 25 septembre 1920.
Il y a une grande violence dans ce livre. Quand on lit le premier chapitre, on est... un peu effaré, et c'est toujours la même violence, c'est une violence faite aux femmes.
Je dirais pas ça, je dirais qu'il y a cette violence de la société envers les femmes, mais il y a plusieurs violences en fait. Il y a plusieurs rapports de domination, plusieurs rapports de violence. Il y a entre les hommes et les femmes, hein, c'est peut-être le plus évident dans le livre, mais il y a aussi entre les riches et les pauvres, entre les classes sociales, entre les bandits et les honnêtes gens, entre les amants et les amantes et vice-versa. Ceux qui s'aiment se font souffrir hein, dans ce livre. Ceux qui sont aimés en tirent profit pour dominer ceux qui les aiment. Donc je voulais un livre qui reflète ces différentes dominations. Donc je commence avec dans le prologue, je cite le discours rapporté par Thucydide des Athéniens aux Méliens. Donc c'est un discours assez célèbre pendant les guerres de Sparte contre Athènes. Mélos était une île qui voulait rester neutre, et une cité quoi, mais sur une île. Et Athènes, les Athéniens ont attaqué la cité, et il y a un discours des Méliens dans lequel les Méliens se défendent en disant « Vous ne pouvez pas nous attaquer, ça n'est pas juste, on ne vous a rien fait. » Et les Athéniens répondent « Mais vous savez, dans la vie, quand les protagonistes, l'un en face de l'autre, sont de force égale, on fait intervenir le droit. Mais sinon, c'est seulement la force qui compte. Et donc, je suis parti de ça parce que je suis féru d'histoire antique. Et en plus, ça va bien avec Marseille parce que c'est une ville qui a été créée par les Grecs. Et j'ai retranscrit ça, cette violence des rapports sociaux, à l'échelle des individus, à l'échelle de la société des années 20, à l'échelle des classes sociales aussi, et pas seulement à l'échelle de deux nations qui s'opposent.
Excuse-moi pour mes conneries, mes amis et leurs ennemis, mais on m'a dit au paradis, tout le monde est très gentil, on chante pas tous les jours une chanson d'amour. On s'endort dans nos conforts et dans le gras de notre corps. Et oui, tout le monde se touche les fesses quand il est seul dans son lit. On chante pas tous les jours une chanson d'amour. On chante pas tous les jours une chanson d'amour. On chante pas tous les jours une chanson d'amour. Les bons souvenirs, c'est le paradis de nos esprits. Une bêtise, c'est ce retrait quand elle est bien mise. On chante pas tous les jours une chanson d'amour. On chante pas tous les jours une chanson d'amour. La cigarette est mauvaise pour la voix, l'alcool est mauvais pour le foie. Les parfums tuent les bonnes odeurs, les ordinateurs tuent les facteurs. On chante pas tous les jours une chanson d'amour. On chante pas tous les jours une chanson d'amour.
Couleur FM 97.1 avec notre invité Sylvain Patieu. Pour finir, nous avons entendu Arnaud dans Chanson d'amour de l'album Future Vintage.
Alors, il y a cette phrase effectivement terrible qui commande ce que vous venez de dire. Dans la vie, il faut être bourreau ou victime. C'est comme ça quand tu viens du peuple.
Alors ça, c'est la vision, c'est la vision d'Yves Couliou,
oui,
hein, de l'assassin. On peut dire que finalement, c'est une vision qui ne lui réussit pas, puisqu'il finit quand même sur la guillotine. Donc c'est pas forcément moi ce que je pense. Mais en tout cas, quand j'ai lu ce fait divers, quand j'ai étudié ce personnage qui m'a intéressé, c'est vraiment la manière dont j'ai ressenti qu'il pouvait penser. Et c'est un personnage qui est révolté contre la société, qui a une sorte de rage sociale, mais il tourne cette rage sociale à son profit, en essayant d'écraser les autres.
Alors donc on a ce meurtre, et puis on a cette enquête dans la deuxième partie, et puis on a un commissaire de police qui a une vision quand même un peu, qui est la sienne de la société, qui
oui.
est pas forcément, et qui dit il faut nettoyer les écuries d'Augias. Ils sont nombreux ceux qui ont profité de la guerre, Rastaquer et Youpin, usuriers et bandits, pendant que les braves combattaient, les salauds prospéraient. Terrible.
Ben en fait, ce personnage, c'est quelqu'un qui a perdu ses deux fils au combat, oui. qui est un policier assez réactionnaire hein, dans ses idées, qui est complètement dépassé par la nouvelle société issue de la guerre, qui ne s'y retrouve plus du tout. Parce que, bon, là, lui, il est à Marseille, mais même une ville comme Marseille, qui était loin du front, a été complètement bouleversée par la guerre. Parce qu'il faut imaginer les réfugiés qui arrivaient à Marseille, notamment le développement de la prostitution, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui se retrouvaient seules, qui étaient sans ressources. également des cartes rebattues. Bon, on sait que la guerre a permis à ce qu'on appelait les mercantis de faire leur beurre sur la guerre. Et donc lui, bien sûr, il traduit ça en termes antisémites, en termes xénophobes, parce que c'est quelqu'un qui est profondément réactionnaire. Et surtout, ce qu'il n'accepte pas, c'est la mobilité sociale. C'est ceux qui ne veulent pas rester là où la société les a assignés. Et donc ce personnage de flic réactionnaire, je voulais le mettre en scène parce que je pense que ça correspond aussi à une manière de penser de l'époque. On sait bien que les ligues d'extrême droite, notamment, se sont développées dans les années 20 et puis encore plus dans les années 30. Donc c'est un personnage qui est vraiment complètement désabusé et qui se préoccupe en fait plus d'ordre social que de justice. Donc là aussi, bien entendu, c'est un personnage qui ne me ressemble pas du tout, mais j'ai essayé de me mettre dans sa tête et de me mettre en empathie avec lui pour l'écrire. Et là, c'est vrai que d'être historien, ça aide, parce que quand on est historien, on est obligé de s'intéresser à la vie d'un paysan du Moyen-Âge ou d'un guerrier grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est des sociétés qui sont tellement différentes de la nôtre qu'on est obligé d'être en empathie, de se mettre à la place des autres. Et donc c'est un peu ce que j'essaye de faire en tant que romancier. Donc ce policier, j'avais pas grand-chose sur lui dans les archives. Je savais simplement qu'il s'appelait André Robert et qu'il s'était trompé, qu'il avait suivi une fausse piste. Donc je me suis beaucoup amusé à l'imaginer tel que je l'ai fait.
Mais il pousse un peu fort quand même. Quand le meurtre de la prostituée, c'est pas ça qui le dérange. Ce qui le dérange, c'est que ce meurtre ait pu avoir lieu à deux pas des beaux quartiers de Marseille.
Marseille, c'est une ville particulière. C'est une ville où la notion de frontière est assez floue. C'est une des seules villes où il y a des quartiers populaires en plein cœur de la ville, au centre de la ville, où on passe très vite d'un quartier bourgeois à un quartier beaucoup plus populaire, d'un coupe-gorge à une rue avec des magasins de luxe. À l'époque encore plus, parce qu'il y avait le quartier réservé, qui était le quartier du Panier, qui était un quartier réservé à la prostitution, où venaient les marins et les ouvriers. Donc j'ai voulu aussi mettre ça en scène, la manière dont les frontières à Marseille peuvent paraître plus poreuses qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des échanges plus vifs, et à la fois, peut-être, pour ceux qui arrivent à Marseille, cette idée qu'ils peuvent se faire leur place dans la société plus qu'ailleurs. Que ce soit des marins devenus gangsters, ou des navigateurs qui deviennent ouvriers. Hein. Que ce soit du bon côté ou du mauvais côté, en tout cas, c'est une ville où il est possible de se frayer son chemin, mais de manière violente, avec une forte violence sociale dans tous les cas.
Oui, toujours ces prostituées, mais avec un regard quand même terrible sur elles, des femmes capables de porter le vice là où la société devrait être préservée.
Ça, c'est la vision du policier, oui.
Bah, toujours.
Voilà.
Oui. Mais c'est le personnage central de cette deuxième partie du livre.
Oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est contrebalancé par le personnage de Simone Marchand, hein, qui est... la prostituée qui a survécu, pas Yvonne Schmitt qui est morte, mais celle qui a survécu. Et on voit qu'elle, c'est une femme qui... Elle sait qu'elle est en position de faiblesse dans cette société. Elle vient d'un milieu populaire, elle est une femme. Et en fait, elle va essayer d'utiliser ses charmes pour escroquer des bourgeois, pour être une femme entretenue, une cocotte, comme on pouvait dire à l'époque. Et donc là aussi, j'ai essayé de faire ce personnage sans juger. Je ne juge pas mon policier réactionnaire, elle non plus, je ne la juge pas. Voilà, je laisse le lecteur se faire son idée. Est-ce que c'est le seul moyen qu'elle pouvait avoir de s'en sortir ou est-ce que c'est quelque chose d'immoral? C'est au lecteur de décider. Et moi, ce que j'essaye de décrire, c'est sans les caricaturer et sans les trahir, la manière dont on pouvait penser de tels personnages et ce que ça reflétait de cette société de cette époque, de cette violence des rapports sociaux et puis également du mélange entre les bas-fonds marseillais et puis le monde des élites à cette époque. Puisque on voit des bourgeois bien contents d'entretenir des cocottes et des cocottes fascinées par des mauvais garçons. Donc voilà, il y a ces échanges, ces rapports de force qui fluctuent, qui se modifient et qui bougent dans le temps et puis dans les lieux, dans les espaces.
Sylvain Patieu, merci.
Merci à vous, Sylvain Patieu. Merci, Dan. Merci, Dominique.
Et merci, Titane.
Merci, Laurent. À très bientôt. Au revoir.
Bye, bye.